Avec Apprivoiser l'argent, Marianne Spear propose un guide accessible pour démystifier les finances personnelles et aider chacun à faire des choix éclairés en accord avec ses valeurs et ses objectifs. Marianne Spear est au bout du fil. Bonjour, Marianne.
Bonjour, Hélène.
Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous a amené dans le milieu des finances, Marianne?
Ah, c'est une longue histoire. J'en parle un petit peu dans le livre, mais depuis toute jeune, là, j'ai quand même des questionnements. Tu sais, je vois que j'ai des amis qui ont plus d'argent que moi, d'autres qui en ont moins, des activités que mes parents disent oui, d'autres non. Fait que j'ai toujours eu des questions un petit peu d'ordre économique. Puis quand c'était le temps de décider, dans le fond, au secondaire, dans quoi on allait étudier au cégep, ben moi, à ce moment-là, ma mère, elle venait d'avoir un diagnostic de cancer, puis je l'avais aidée au niveau de sa réclamation d'assurance, puis mon petit copain était un petit peu plus vieux que moi, puis il commençait à avoir des problèmes de carte de crédit, puis je me suis dit, oh mon Dieu, mais là, moi, je m'en vais dans ma vie d'adulte, puis j'ai aucune connaissance sur les finances personnelles, fait que je suis allée étudier en services financiers en sachant pas trop si ça allait me passionner, mais en sachant que ça allait m'aider, du moins, dans ma vie d'adulte, puis finalement, j'ai adoré le domaine, puis j'ai rapidement voulu commencer à redonner des informations utiles que moi j'avais dans mes cours. Fait que j'ai eu une émission à ma TV, une émission citoyenne, j'ai donné des ateliers aux nouveaux arrivants. Et là, ultimement, on est venu apprivoiser l'argent, qui est vraiment le projet dont je suis plus fière.
Ah oui, hein, votre premier livre qui est très agréable à feuilleter. Vous parliez de votre mère qui a eu des problèmes de santé. Elle va bien aujourd'hui?
Oui, elle va très bien. Elle va sûrement nous écouter.
Super. Et votre petit copain, est-ce qu'il a encore des problèmes avec ses cartes de crédit ou vous n'êtes pas au courant?
Ah, ça, seul Dieu le sait parce que...
Il n'est plus dans votre vie.
Avec lui. Oui.
OK. Alors, présentez-nous votre livre « Apprivoiser l'argent ». C'est dans la collection « Apprivoiser ». Donc, on a eu « Apprivoiser la politique » et maintenant, c'est « Apprivoiser l'argent ». C'est quoi l'objectif de ce livre-là? À qui il s'adresse?
C'est vraiment, dans le fond, notre public cible, c'était 25-35, mais on se rend compte que les jeunes aujourd'hui, avec leur cours d'éducation financière au secondaire, sont déjà très informés, donc ils pourraient très bien se retrouver dans ce livre-là. Fait que je dirais vraiment 18-35, puis même au-delà de ça, ça peut être pertinent parce qu'il y a vraiment des histoires comme d'où vient l'argent, c'est quoi l'histoire de la première compagnie d'assurance qui se trouve à l'intérieur. Puis l'objectif avec ça, c'est vraiment d'offrir comme les bases aux citoyens qui vivent dans notre façon de vivre, là, mm-hmm. D'avoir des bases citoyennes en fait pour bien évoluer là-dedans, faire des bons choix, pas se faire avoir. Puis tu sais, quand on parle de faire des bons choix, c'est comme vous avez dit dans l'introduction, c'est vraiment les choix qui sont alignés avec nos valeurs. Fait qu'on n'est pas dans un texte prescriptif qui donne une recette là, toute écrite, comment arriver à la richesse et tout. C'est plus un livre qui pose la question, c'est quoi la richesse pour vous? Puis ensuite, qui vous donne des outils sur comment y arriver.
Et quelqu'un là, qui ne s'intéresse pas beaucoup à tout ce monde-là des finances, de l'argent. Est-ce que vous pensez que votre livre va finalement faire en sorte qu'il va s'y intéresser? Parce que j'en connais des gens qui veulent rien savoir, là, qui laissent ça entre les mains d'autres personnes. Et pourtant, il faudrait être plus responsable, j'imagine.
Ben, c'était vraiment notre plus grand souhait. C'était un petit peu audacieux aussi, là, de se dire que notre public cible, c'est ceux qui s'intéressaient pas à ce qu'il y avait déjà en librairie à ce sujet-là. Puis de ce que je vois à ce jour, c'est sûr que bon, on m'a dit que je pouvais pas avoir accès là, au chiffre de vente avant au moins un an, mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux et tout, on arrive vraiment à aller chercher notre public cible. Puis aussi de ce que je vois dans ma clientèle, parce que moi, je suis aussi conseillère en sécurité financière, mes clients qui, justement, sont ceux qui s'y intéressent le moins, puis que quand je leur avance des concepts, que, tu sais, je suis quand même obligée de leur expliquer pour qu'ils comprennent des produits dans lesquels ils sont, des choses comme ça, ils me regardent puis ils disent comme ça, c'est Marianne, je sais que tu dois me l'expliquer, mais tu sais que ça m'intéresse pas trop, tu sais. Puis des gens surtout très, très visuels, ces clients-là m'ont dit qu'ils allaient acheter le livre puis que ça les intéressait vraiment, puis il y en a qui l'ont déjà en main. Puis je vois que ça a capté leur attention. Fait que je pense qu'on va vraiment réussir à le faire avec ce livre.
Il y a de l'espoir. Marianne Spear, votre livre aborde les bases, comme le budget. Pourquoi c'est un outil numéro un pour reprendre le contrôle de ses finances, faire un budget?
Parce que c'est vraiment un outil qui, tu sais, dans le fond, on peut pas savoir où on va si on sait pas d'où on vient. Là. C'est un petit peu ça, le budget. Là. C'est bien beau de se mettre des objectifs et tout, mais après, il faut regarder c'est quoi nos habitudes, puis est-ce que ce qu'on fait concrètement dans la vie de tous les jours, ça nous permet d'y arriver. Puis c'est vraiment juste le budget qui nous permet de faire ça. Mais je comprends que le budget, c'est peut-être un exercice qui semble gros, même si c'est simple en tant que tel, mais aujourd'hui, dans l'ère numérique où tout est extrêmement rapide, où il faut vraiment que tout aille très vite, je pense que ça peut sembler gros pour certaines personnes de faire le budget. Des petits trucs que je donne à ce moment-là, c'est commencez pas tout de suite à faire votre budget, faites juste commencer avec une micro-habitude, comme de regarder votre compte de banque avant de faire une dépense, c'est rapide, on le fait ça aide. Puis après ça, de commencer à garder un petit peu comme à chaque jour sur un chiffre Excel les dépenses que vous faites, puis à la fin d'un mois d'avoir fait ces deux petits exercices-là, là, vous pourrez monter votre budget, puis vous allez avoir plus en tête les dépenses que vous faites, puis vous allez avoir bâti comme un petit peu sans le vouloir, là, vous allez avoir regagné un petit peu confiance en vous juste parce que vous allez avoir adopté ces deux petites
habitudes. Oui, et ça, c'est ça, ça va créer une sorte de rituel. On ne pourra plus s'en passer comme se brosser les dents. Il faut faire son budget. Moi, j'avais un père qui faisait son budget et qui arrivait à la scène près. Et il était très fier. Et nous aussi, de lui, mais on dirait que moi, j'étais sécurisée dans ma famille. Donc, mais j'ai pas appris à faire un budget. C'est-tu assez nono, là? Mais il n'est jamais trop tard.
Oui, puis tu sais, je dois dire, j'ai plein de clients qui n'ont jamais fait de budget, puis quand ils sont arrivés devant moi, il n'y avait pas non plus de problème financier. Là, il y en a que c'est juste comme intuitif, ils ne dépensent pas plus qu'est-ce qu'ils ont, puis c'est assez clair pour eux c'est quoi leur objectif. Moi, je me permets de faire un budget avec eux juste pour m'assurer que mes recommandations rentrent dans ce qu'ils font. Puis ce que je me rends compte en faisant cet exercice-là avec eux, c'est que souvent, ça les rassure. Parce que même s'ils s'en doutent que ça va bien parce que ils n'ont pas de problème de dette ou autre, ils sont jamais sûrs d'être au bon endroit. Puis là, de faire un budget, c'est comme si ça les rassure. Mais tu sais, ces gens-là, je leur conseille pas non plus. Je leur dis pas de à chaque jour garder chacune de leurs dépenses. Tu sais, ça serait un peu pas mettre ses énergies au bon endroit. Fait que c'est là aussi où dans le livre, on amène les gens à être francs avec eux-mêmes, puis à adopter les habitudes qui vont les aider, puis à laisser de côté ceux qui ne sont pas pour eux.
Et je vous demandais un ou des conseils pour diminuer nos dépenses et augmenter nos revenus, qu'est-ce que vous répondriez?
Un conseil?
Oui.
Pour diminuer nos dépenses, augmenter nos revenus. Je pense que le premier truc que j'ai donné, de regarder son compte avant de dépenser. T'sais, surtout le soir, si on est habitué à peut-être magasiner un petit peu en ligne ou autre, à chaque fois qu'on vient pour faire un achat, de regarder son compte avant, je pense que ça peut vraiment aider à dépenser de façon plus consciente puis à réduire dans les achats superflus. Puis sinon, pour augmenter ses revenus, c'est sûr que de placer son argent selon son profil d'investisseur, il y a beaucoup de gens qui vont comme juste laisser ça en épargne. C'est sûr que c'est se priver d'une source de revenus future. C'est juste qu'on la verra pas tout de suite.
Est-ce que c'est vrai qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent?
Oui, quand même. Un certain mot. C'est qu'il faut avoir une marge de manœuvre. C'est ça qu'on explique dans le livre.
Pas de marge de crédit, une marge de manœuvre.
C'est ça. C'est revenu moins dépenses. C'est pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, mais il faut créer de l'espace. Puis je comprends qu'il y a des périodes dans notre vie où est-ce que c'est absolument pas possible. J'en ai des clients, jeunes étudiants ou des jeunes familles où est-ce qu'on se sent vraiment accroché on se sent vraiment étouffé là, par nos finances. C'est des périodes plus difficiles, mais à ce moment-là, si votre conseiller n'est pas en mesure de vous aider, il y a des ressources comme Options consommateurs qui font des consultations budgétaires puis qui vont pouvoir vous guider pour vous assurer que vous êtes dans les bons produits de crédit, que vous payez le moins d'intérêt possible. Puis la vie financière, c'est une roue, là, puis on a différentes saisons. Puis c'est sûr qu'il y a des saisons où est-ce qu'on va se sentir plus étouffé que d'autres, mais il faut pas penser que ça définit absolument toutes les saisons de nos vies financières.
Votre livre « Apprivoiser l'argent », c'est pas un livre de recettes, là, mais c'est un livre. Est-ce que c'est vous qui avez pensé au look, si je peux m'exprimer comme ça, du livre,
ouais,
parce que il est très agréable, justement, feuilleté. Il y a de la couleur, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du bleu aussi. Et c'est dynamique, c'est pas plate à feuilleter.
Ouais, ben c'était toujours dans notre intention de le créer de cette façon-là, mais j'avoue que pour les couleurs puis vraiment les photos qui ont été choisies et tout, c'est vraiment le travail là, du directeur artistique qui est incroyable. Mais c'était dans notre, tu sais, dans la façon que je l'ai écrit puis dans la façon qu'on le pensait, on savait qu'on voulait un produit dans ce style-là, absolument.
J'aperçois un cornet de crème glacée, il y a aussi un raton laveur. Vous donnez des trucs sur le pouce pour mieux investir aussi. Ce sont des phrases finalement comme débuter le plus tôt possible à la hauteur du budget disponible, respecter son profil d'investisseur, avoir une bonne diversification. Ça veut dire quoi ça, avoir une bonne diversification?
Ben c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Fait que quand on parle d'investissement, par exemple, c'est pas être dans seulement une classe d'actifs. Fait que les actions, les obligations, c'est d'avoir, c'est d'être séparé, d'avoir ces deux classes d'actifs là, puis il peut en avoir d'autres comme de l'immobilier. Il y a d'autres classes d'actifs qui existent, avoir des parts dans une entreprise à titre d'investisseur privé ou autre. Puis c'est aussi d'être diversifié au niveau géographique, fait que pas tout au Canada, pas tout aux États-Unis, pas tout en Europe, pas tout en Chine. C'est de pouvoir aller chercher les opportunités quand ils vont se présenter, puis de pas être 100% concentré au mauvais endroit le jour où ça pète, là. Puis finalement, c'est d'être diversifié au niveau secteur économique, fait que de pas être tout investi dans le secteur des technologies, de pas avoir tout son argent dans le secteur de la santé, dans le secteur automobile, par exemple.
Ouais.
C'est vraiment diversifié de cette façon-là, mais c'est pas non plus d'être éparpillé. Fait que, tu sais, il y a quand même certaines stratégies puis des analystes là, qui s'assurent de mettre des stratégies qui sont pas non plus de l'éparpillement, mais c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier au final.
Est-ce que c'est un mythe de croire que les placements les plus risqués sont toujours les plus rentables?
Il y a une corrélation là, risque versus c'est qu'il y a une corrélation risque versus potentiel de rendement, mais c'est pas plus qu'il y a de risque plus qu'il y a de rendement, c'est vraiment un rendement potentiel. Fait que puis on peut retrouver un petit peu cette relation là dans plusieurs emplois aussi là. Si on regarde des emplois plus risqués, qu'on est moins sûr d'obtenir une place, d'être engagé, que ça demande des grosses études, ben qu'on risque plusieurs années de nos vies dans le fond à ne pas faire de revenus, ben ces emplois-là des fois vont être payés plus cher, mais ça veut pas dire qu'on va finalement aller travailler dans ce domaine-là, qu'on va obtenir l'emploi qu'on veut. C'est la même chose un petit peu pour les investissements là. C'est sûr qu'une nouvelle compagnie qui entre en bourse qui vaut 1 $, ben elle a la possibilité d'en valoir 100 000, 2 000 éventuellement, mais elle a aussi la possibilité qu'il y a des choses qui se passent là, dans ses premières années, puis que finalement elle survive pas, puis qu'elle fasse faillite. Fait que c'est sûr que cette entreprise-là, il y a un plus gros potentiel de rendement que, par exemple, une obligation que le gouvernement du Canada émettrait, puis émettrait un taux fixe, là. Mm-hmm. Mais ça reste vraiment un potentiel de rendement. C'est pour ça qu'il faut être capable de prendre du risque à la hauteur de son profil, de sa tolérance au risque, là. Mais c'est pas un plus un égal deux, là.
Non. On est dans les chiffres, mais on est aussi dans la personnalité de la personne, parce que oui, il y en a qui sont à l'aise avec le risque, puis il y en a d'autres qui préfèrent avoir des placements un peu plus dits pépères, si je peux dire, ou un mélange de tout ça. Et il me reste un peu de temps juste pour aussi dire que vous expliquez la différence entre le REER et le CELI. Il y a des gens encore qui se posent la question?
Je pense que oui, surtout avec l'arrivée du CELIAP. Là, il y a beaucoup de gens qui se trompent plus CELI-CELIAP. J'ai vu même en fait des jeunes mettre de l'argent dans un CELIAP en pensant que ça allait la même utilité qu'un CELI.
Ah.
Puis là, à ce moment-là, ils peuvent pas sortir leur argent. Ou s'ils la sortent, ils vont être imposés dessus parce qu'ils sont pas nouvellement propriétaires.
Oui, il y a une différence vraiment fondamentale, là.
Oui, absolument. Ouais. Puis c'est que si on disait la différence entre CELI et CELIAP, ben on n'a pas le choix de parler du REER aussi, là. Mais c'est vrai que c'est une question que je trouve qui revient de moins en moins. Puis je pense que c'est rentré là, dans l'esprit des gens. Il faut quand même garder en tête que le CELI est arrivé en 2009. Là, fait que, il n'est pas si vieux que ça. Fait que,
non,
c'est
non.
C'est quand même normal qu'après 15 ans, là c'est ancré dans la tête des gens. Mais c'est fait que le CELIAP, on en a pour 15 ans encore.
Bon, alors on va se pencher sur tout ce que vous venez de nous dire et surtout s'intéresser à votre livre. Je l'ai pas lu de A à Z, mais je l'ai parcouru et je trouve que il donne vraiment envie de s'intéresser à nos affaires. Il y a tout un lexique. C'est ça débroussaille Bien, tout l'aspect financier et aussi ça nous donne des clés pour nous donner envie d'être responsable de nos avoirs et justement pour pas se faire avoir. Apprivoiser l'argent, c'est écrit par Marianne Spear et c'est publié au Parfum d'encre. Merci d'avoir été avec nous, Marianne.
Merci à vous, Hélène. Bonne journée.
Bonne journée.